J'ai une question bien intéressante pour vous. Est-il important qu'un croyant ne s'associe pas à un incroyant dans le mariage et en affaires? Demeurez à l'écoute, la parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois que Dieu va nous donner un puissant enseignement aujourd'hui en réponse aux questions que voici. Est-ce que la vie est sacrée aux yeux de Dieu? Est-il important que nous parlions du précieux sang de Christ dans nos églises? Est-il important que le peuple de Dieu ne vive pas comme les incroyants? Est-ce parce que nous sommes meilleurs que les autres que Dieu nous a rachetés? Est-ce que Dieu veut nous protéger de l'idolâtrie et de l'immoralité? Est-il dangereux pour un croyant de s'associer aux incroyants? J'ai bien hâte d'entendre les réponses à ces questions. Remercions Dieu pour sa parole merveilleuse. Remercions-le pour la liberté qu'on a dans notre pays, la liberté de lire, d'entendre prêcher et de pratiquer sa parole. Remercions-le de nous donner des prédicateurs comme le pasteur et Jean Joly, des hommes qui tiennent à ce que les gens connaissent les Saintes Écritures pour les appliquer dans leur vie et pour ainsi glorifier leur Créateur. Prions. Oui, Seigneur, on a des cœurs reconnaissants envers toi pour la richesse de ta parole et la liberté qu'on a dans notre pays de pouvoir la lire et de la mettre en pratique. Merci, Seigneur. Merci pour la liberté aussi qu'on a de l'entendre prêcher en ce moment même. Enseigne-nous, Seigneur. On t'écoute. On veut que tu enrichisses notre vie par ta sainte parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Le livre du Lévitique est fascinant, car il introduit des vérités fondamentales de la foi chrétienne d'aujourd'hui. Même si ces instructions furent données littéralement à la nation d'Israël, même si les raisons pour les donner ne sont plus, elles nous donnent encore des leçons spirituelles aujourd'hui. Elles jettent une lumière sur bien des éléments du Nouveau Testament. Je me réjouis du fait que de nombreuses personnes développent une relation personnelle avec Christ en étudiant le livre du Lévitique. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 17, et certains le considèrent comme une suite avec un prolongement du chapitre 16. Il est vrai qu'il y a un enchaînement, mais ce chapitre traite d'un sujet différent. Ce chapitre considère l'endroit où faire les sacrifices, ainsi que la valeur du sang. Ce chapitre s'applique directement à la marche dans le désert et au fait qu'Israël campait autour du tabernacle. Il traite de sujets d'éthique plutôt que du cérémonial religieux. Les animaux purs tués pour fin de consommation devaient être tués au tabernacle. Seuls les versets 8 et 9 traitent spécifiquement de sacrifices faits à Dieu. Après qu'Israël se soit dispersé dans la Palestine et que des Israélites vivaient à des centaines de kilomètres du tabernacle, il devenait impossible d'apporter les animaux à la tente d'assignation pour les tuer. Dieu a modifié les directives de ce 17e chapitre alors que le peuple entra en Palestine. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes les portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau, lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire « Je voudrais manger de la viande ». Tu pourras en manger, selon ton désir, si le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi. Tu pourras tuer du gros et du menu bétail, comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes, selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux. Toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Deutéronome chapitre 12, versets 15 et 16, ainsi que les versets 20 à 25. Pourquoi Dieu a-t-il exigé que les animaux tués pour les manger le soient à l'entrée du tabernacle? Ceci est compréhensible lorsque nous considérons le fait qu'Israël venait de sortir d'Égypte, un pays rempli d'idolâtrie. Le peuple avait adoré et vénéré les idoles du pays, et il aurait pu facilement revenir à l'idolâtrie qu'il venait juste de délaisser. En Égypte, le peuple avait adoré les dieux de la nature, dont un, Mendès, était représenté par un bouc. Les Grecs vénéraient ce même dieu sous le nom de Pan. Nous le connaissons grâce à la littérature grecque qui le dépeint avec une queue, des cornes et des sabots. Au Moyen Âge, le christianisme a identifié Satan avec cette image. Notre mot « panique » est dérivé du nom « Pan », car il décrivait la terreur inspirée par le démon. Dieu a demandé au peuple de ne pas tuer les animaux purs ailleurs qu'à l'entrée du tabernacle, afin qu'ils ne fassent pas de sacrifice à Pan, le dieu chèvre d'Égypte. De plus, Dieu a interdit totalement à son peuple de manger du sang. La raison de cet interdit est donnée clairement. Le sang représente la vie. Il y a deux raisons sous-adjacentes. Premièrement, la vie est sacrée. Même les animaux ne devaient pas être tués inutilement. Deuxièmement, le sang rappelle le sacrifice de Christ. Le sang était le moyen d'expiation, le symbole de la réconciliation et le symbole du sacrifice de Christ, notre substitut. La vie, chers amis, est sacrée et doit être protégée. Mais Christ a dû donner sa vie afin que le pécheur puisse avoir la vie. La vie et le sang sont synonymes. L'homme ne devait pas manger le sang, mais il devait boire le sang de Christ, entre guillemets, c'est-à-dire s'approprier par la foi dans le sang versé par Christ, la vie de celui-ci qu'il a cédé afin que nous vivions. N'hésitons pas à parler du sang versé avec louange et amour. Trop souvent, même dans nos églises, ce sujet n'est pas populaire, car il touche le péché. Mes amis, lorsque nous craignons de parler du péché, nous parlons très peu du précieux sang de Christ. Un jour, une dame vint vers le nouveau pasteur de son église et lui dit, « Monsieur, j'espère que vous ne parlerez pas trop de sang. » Celui-ci répondit, « Non, madame, je ne le ferai pas. »« Ah, j'en suis heureuse, » interrompit la dame. « Car il est impossible de trop parler du précieux sang de Christ, » ajouta le pasteur. Chers amis, débutons notre lecture. Du Lévitique chapitre 17, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. » J'aime cette expression, « L'Éternel parla à Moïse ». Presque tous les chapitres de ce livre commencent par « L'Éternel parla à Moïse ». Les instructions de ce chapitre s'adressent à tout Israël, pas seulement à Aaron et à ses fils. Dieu touche la vie personnelle et privée des Israélites. Non seulement a-t-il fait une distinction entre les animaux purs et les impurs au chapitre 11, maintenant il donne des règlements sur la façon de manger les animaux purs. La façon de vivre de son peuple doit être différente de celle de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Dieu leur répétera cela souvent au prochain chapitre, entre autres 18e du livre du Lévitique. Mais pour l'instant, poursuivons la lecture du Lévitique chapitre 17, versets 3 à 6. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse, qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous avons ici une loi étrange qui ne touche pas le rituel des sacrifices. Si vous examinez bien le texte, vous remarquerez que ces animaux étaient tués pour s'en nourrir. Autrement dit, Dieu désirait être invité au repas. Par ce geste symbolique, les dieux étrangers étaient exclus. Pourquoi Dieu était-il sévère à ce sujet? Si quelqu'un du peuple désirait manger un agneau, il devait l'apporter à l'entrée de la tente d'assignation pour le tuer. Qu'importe que tous auraient su que l'homme avait des invités pour le dîner, ou qu'il aurait omis d'inviter sa belle-mère, l'animal devait être tué à l'entrée du tabernacle. Ceci fut ordonné à cause du contexte culturel et historique duquel sortait le peuple. Chez les païens, un animal était offert à une idole avant d'être tué. Dieu voulait empêcher son peuple de se tourner de nouveau vers l'idolâtrie, ce qui aurait entraîné des ténèbres spirituelles et un jugement. Lorsque le peuple de Dieu vivait en Égypte, il était aussi idolâtre que les Égyptiens. Il ne fut pas racheté parce qu'il était supérieur aux autres peuples. Dieu les a rachetés parce qu'il a entendu leurs cris et qu'il avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque Dieu fait une alliance, il la respecte. Nous savons que le peuple était idolâtre lors de son séjour en Égypte, car les Écritures l'affirment. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ce regard, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Ézéchiel, chapitre 20, versets 6 à 8. Dieu veut que le peuple se défasse de ses habitudes idolâtres qu'il a acquises en Égypte. Il avait vénéré des animaux, et les sacrifices sanglants faisaient partie des us et coutumes du pays. Il faut connaître cet arrière-plan afin de comprendre pleinement les exhortations de Paul que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, entre autres dans l'Épître aux Corinthiens. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 13, ainsi qu'au chapitre 10, versets 1 à 33. Les Corinthiens étaient des idolâtres et ils offraient leurs animaux à leurs idoles. Ils laissaient leurs animaux au temple, et la viande était revendue sur le marché. C'est au temple que l'on pouvait acheter les meilleurs filets mignons. Aujourd'hui, vous allez le chercher chez votre boucher. Mais au temps du Nouveau Testament, les prêtres et les scribes enseignaient aux Juifs de ne pas manger de viande offerte aux idoles. Cependant, les païens convertis en achetaient sans aucun remords de conscience, car ils savaient que les idoles n'étaient rien. Les chrétiens juifs n'aimaient pas manger en compagnie des chrétiens d'origine païenne à cause de cette différence entre eux. Ce chapitre 17 du livre du Lévitique explique le contexte historique des versets de l'Épître aux Corinthiens. lorsque le Concile de Jérusalem a dû se prononcer sur la question de la judaïsation. Jacques, un des anciens de cette Église, a parlé au nom du groupe et il a déclaré « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Le livre des Actes, chapitre 15, versets 19 et 20. Dieu enseignait aux non-juifs que la vie est sacrée. Puis-je ajouter que l'abattage d'animaux pour fin de consommation est encore associé à des rites païens aux Indes? En fait, la nation d'Israël avait peu de viande à manger dans le désert. L'incident au sujet des cailles nous a révélé cela. Le peuple s'est plaint, car il n'avait pas de viande. « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nombre, chapitre 11, verset 4. Ceci était vrai chez toutes les nations de l'Antiquité, et certains pays de l'Est n'ont pas abondamment de viande. En fait, certains peuples sont même végétariens. Un animal pur, choisi pour être consommé, devait être tué à l'entrée de la tente d'assignation. Son sang était répandu à cet endroit. Le sang était placé sur l'autel et le gras brûlé comme offrande d'odeur agréable. C'était un sacrifice d'action de grâce. Le reste de l'animal était remis à son propriétaire qui pouvait le manger. Comprenez-vous pourquoi les Juifs n'approuvaient pas que les non-Juifs mangent de la viande offerte aux idoles? Revenons à notre texte. Lévitique chapitre 17, verset 7. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. C'est ainsi que Jéroboam, le fils de Nébat, a fait pécher Israël. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'ils avaient faits. 2 Chroniques, chapitre 11, verset 15. Ceci réfère à la vénération dégradante de licencieuse de la nature associée au dieu Pan. Dieu dit à son peuple, « Ne faites pas cela. Apportez vos animaux à l'entrée du tabernacle. » C'est pourquoi que les peines mentionnées au verset 4 sont sévères. Ces lois furent modifiées lorsqu'Israël arriva en Palestine. Mais le principe enseigné par ces lois est éternel. Chers amis, il est très important que nous comprenions ceci aujourd'hui. Le peuple était en danger de retourner à l'idolâtrie et à l'immoralité grossière. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont retournées à la vénération de la nature. Lévitique, chapitre 17, versets 8 et 9. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël, ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, offrent un holocauste ou une victime, et ne l'amènent pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Dieu est clair, très spécifique, que l'animal soit apporté comme sacrifice ou comme holocauste. Il n'a pas laissé les Israélites apporter un animal comme holocauste et retourner ensuite à la maison avec ce même animal. La loi sur les holocaustes devait être observée. Dans ces deux versets, Dieu parle des holocaustes. Les sacrifices étaient apportés à un seul endroit, au tabernacle. Dieu a insisté sur ce point à plusieurs reprises, afin de tenir son peuple loin de l'idolâtrie. Cette loi s'appliquait aussi aux étrangers qui s'étaient joints à Israël ou qui vivaient parmi le peuple. Les étrangers auraient pu avoir une influence sur le peuple. Les gens avaient tendance à adopter les us et coutumes des étrangers plutôt que de les emmener à la connaissance de Dieu, qui a le pouvoir de convertir les cœurs à la vérité. Aujourd'hui, la Bible nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, « fuyez l'idolâtrie !» 1 Corinthiens 10, verset 14. Elle dit aussi, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. Ceci est un grand principe qui s'applique à l'Église. Il est très dangereux de s'associer avec des non-convertis dans les domaines religieux, politiques, matrimoniaux, commerciaux et sociaux. Dieu nous avertit à ce sujet dans la Bible. Versets 10 et 11. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le verset 11 est le verset clé de ce livre. La vie est dans le sang. Ceci est répété au verset 14. C'est le fondement de tous les sacrifices. Versets 12 à 14. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, « Personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Oui, mes amis, même le chasseur devait verser le sang de son gibier sur le sol et le couvrir de terre afin que les rapaces ne le mangent pas. En faisant cela, les chasseurs se rappelaient la valeur du sang et pouvaient louer Dieu pour le sang versé, pour l'expiation de leurs péchés. Voyez-vous, tout acte, tout geste devrait nous rappeler à quel prix l'homme a été racheté. Même dans la forêt, Dieu ne permettait pas à un homme d'oublier la valeur du sang. Nous devons louer Dieu pour notre rédemption de tout lieu et de tout endroit. Les chasseurs d'Israël devaient être des hommes de foi. Ils ne devaient pas tuer pour assouvir des passions, mais pour se nourrir. Versets 15 et 16. Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Cette loi fut donnée car le corps d'une bête morte ou déchirée contenait du sang coagulé. Ceci donnait à la personne un temps de réflexion qui l'encouragerait dorénavant à penser à sa rédemption et à l'expiation de ses péchés. Tout devient spirituel pour celui qui croit en Dieu. Jésus-Christ a prononcé des paroles très intéressantes. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Jean, chapitre 6, versets 54 à 56. « Parce que la vie de la chair est dans le sang, Jésus dit que nous devons accepter par la foi son sang versé pour nos péchés, et nous recevrons la vie éternelle. » Prochaine émission, Lévitique chapitre 18.
Merci beaucoup, Régent. C'est bien clair maintenant qu'on doit s'approprier par la foi dans le sang versé par Christ, la vie qu'il a cédée afin que nous vivions. Mes amis, louons Dieu pour le sang de Christ, qui a été versé à la croix pour l'expiation de nos péchés. Louons-le chaque jour, remercions-le pour notre rédemption, pour la vie éternelle qu'on a reçue grâce à ce précieux sang. Louons Jésus pour son sang qui a fait l'expiation pour nos âmes, qui nous a purifiés de nos péchés. L'enseignement d'aujourd'hui me rappelle un vieux chant gospel traditionnel qu'on chantait souvent à mon église dans mes premières années à l'Évangile. J'aimerais juste te lire les paroles de ce chant et t'encourager à en faire ta prière si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, le don gratuit de la vie éternelle. Alors ce bon vieux chant va comme ceci. Qu'il soit ta prière. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Ô, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Si tu as fait de ces deux couplets et de ce refrain ta prière, eh bien, tu peux maintenant réciter le troisième couplet avec assurance. Il va comme ceci. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. C'est pas beau ça, tu penses? Il y a un endroit où on a dit « Tout confus, brisé, je me rends ». Et la parole de Dieu nous dit que celui qui croit en Jésus, qui met sa confiance en lui, ne sera pas confus. Alors, une fois que tu as reçu Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, toute cette confusion disparaît. Puis tu as l'assurance d'avoir la vie éternelle. Alors, donne ta vie au Seigneur. Laisse-le te sauver. Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.